Les informations présentées par Thomas Cluzel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Antoine Genton, bonsoir à toutes et à tous. L'affaire Omar m'a tué, comme l'ont ironiquement baptisé les réseaux sociaux, a pris un nouveau tour aujourd'hui avec la convocation en ce moment même de François de Rugy par Édouard Philippe, de quoi nourrir à nouveau toutes les théories. Depuis l'arrêt des traitements, sa mort n'était qu'une question de jour, faute d'alimentation et d'hydratation artificielle. Le décès de Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans, a été annoncé ce matin sans pour autant mettre un terme aux querelles familiales. Et puis, nous irons en Italie où le parti de Matteo Salvini est soupçonné d'avoir cherché à obtenir des financements de la part de la Russie via un accord pétrolier. Après la polémique liée à la baisse des APL, c'était en juillet 2017. Après l'affaire Benalla, c'était en juillet 2018. Les dépenses de bouche de François de Rugy, de même que les travaux d'embellissement de son appartement de fonction révélés par Mediapart, viendront-ils gâcher le troisième été consécutif d'Emmanuel Macron? Seule certitude. Et même si officiellement l'exécutif fait bloc au sein de la majorité présidentielle, les soutiens apportés à l'ancien président de l'Assemblée et actuel ministre de l'écologie sont plutôt, disons, mesurés. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors en visite aujourd'hui dans les Deux-Sèvres et accueilli dès son arrivée dans une ferme d'élevage bovin avec un plateau de fromage locaux et du café dans un gobelet en plastique recyclable, François de Rugy, pressé de questions, a maintenu sa ligne de défense. Et puis, alors même qu'il devait passer toute sa journée dans le département, à 13h30, le ministre est rentré précipitamment sur Paris, convoqué pour un entretien par Édouard Philippe. On n'en sait pas davantage pour l'instant, mais évidemment, Rosalie, cela alimente déjà toutes les spéculations.
Et on ne peut qu'imaginer pour l'instant l'embarras de l'exécutif dans cette affaire. Les homards, les grands crus, les coûteux travaux aux frais du contribuable, ça paraît difficilement compatible avec la République exemplaire promise par le président Emmanuel Macron. François de Rugy l'a encore reconnu à demi-mot tout à l'heure.
Je comprends que les Français puissent être un peu choqués par certaines images, en quelque sorte des images volées. Je ne sais pas comment Mediapart a pu récupérer cela, mais enfin, c'est la vie. Par ailleurs, je suis évidemment très attentif à ce que toutes les explications soient données. Et s'il y a eu des erreurs d'appréciation de ma part, je serai tout prêt également à les corriger.
Et il y a manifestement eu des erreurs au moins d'appréciation. C'est le sentiment de René Dosière, président de l'Observatoire de l'éthique publique.
Il n'a pas commis un délit susceptible d'aller devant le tribunal correctionnel. On n'est pas dans un cas manifeste de détournement de fonds publics où il faudrait qu'il y ait des quantités assez invraisemblables de repas privés financés par le public pour que ça soit sanctionné. Mais là, c'est effectivement beaucoup plus sanctionnable sur le plan de la morale et de l'éthique. Ce qui, pour un élu, est tout aussi grave.
Alors, on connaît l'importance qu'accorde Emmanuel Macron à la loyauté et François de Rugy fait partie des fidèles. Cela suffira-t-il pour le maintenir numéro 2 du gouvernement? L'avenir, peut-être tout proche, nous le dira. René Dosière regrette en tout cas cet arbre qui cache la forêt. Des progrès réels ont été faits en matière de transparence de la vie publique, assure le spécialiste. Et il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain ou des homards en l'occurrence.
Merci Rosalie Lafarge. Et puis toujours, s'agissant de François de Rugy, mais aussi d'exemplarité, j'ajoute que sa directrice de cabinet, Nicole Klein, a elle annoncé hier soir avoir démissionné de ses fonctions à la demande du ministre de la Transition écologique, et ce après que le site Mediapart a révélé que l'ancienne préfète avait conservé pendant plusieurs années un logement social sans l'occuper. Des parlementaires soupçonnés de détournement de fonds publics, au total 7 députés et 8 sénateurs, dont certains toujours en exercice, sont soupçonnés par le parquet national financier d'avoir pioché dans leurs indemnités représentatives de frais de mandat, dont l'usage est pourtant strictement encadré, pour financer des dépenses sans rapport aucun avec leurs activités de parlementaires. Le préjudice s'élèverait de 20 000 à 80 000 euros selon les cas. Soulagement pour les uns, crime d'État pour les autres. L'annonce ce matin du décès de Vincent Lambert, 8 jours après l'arrêt de ses traitements, n'aura visiblement pas réussi à éteindre les querelles qui, depuis tant d'années, voyaient les membres de sa famille se déchirer sur son sort. Quand ses parents, fervents catholiques, estimaient que leur fils, en état végétatif, était handicapé et non pas en fin de vie, son épouse, Rachel, mais aussi son neveu, François, de même que 6 de ses frères et sœurs, n'avaient de cesse de dénoncer un acharnement thérapeutique. Hélène Fromanti, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on aurait pu croire que l'annonce du décès de Vincent Lambert allait mettre un terme définitif à ce long feuilleton judiciaire et médiatique. Or non seulement sa mort aura presque immédiatement relancé les débats autour de la loi sur la fin de vie, mais elle aura aussi et surtout mis en lumière combien ce conflit familial constitue encore aujourd'hui, à l'heure pourtant du deuil et du recueillement, une rupture irréversible.
Oui, et il n'aura fallu que quelques heures pour que la guerre des clans ressurgisse. C'est François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, qui s'exprime en premier ce matin face à la presse. Lui qui s'est toujours positionné, vous le disiez, contre l'acharnement thérapeutique, se dit soulagé par la mort de son oncle.
C'est un soulagement, évidemment. C'est pas triste, les gens me disent toutes nos condoléances, mais ou courage, ou moment difficile, mais en fait, non, c'est pas... Ça remet les choses dans l'ordre, en fait. C'était ce qu'on attendait depuis des années. On y était prêts depuis des années. Et là, ça fait vraiment baisser la pression. La pub a déjà baissé un petit peu avec l'annonce des parents de Vincent, selon laquelle ils allaient arrêter de faire des procédures le temps qu'ils partent au moins. On redevient dans quelque chose de rationnel. Vincent, il était en état végétatif, il aurait pas voulu vivre comme ça. Et là, j'espère qu'il repose en paix. Pour moi, l'affaire Vincent Lambert, elle se termine là, clairement, aujourd'hui.
En face, les avocats des parents de Vincent Lambert répliquent à la mi-journée. Dans un bref communiqué, ils dénoncent un crime d'État orchestré, je cite, par un médecin qui a renoncé à son serment d'Hippocrate, ignorant la dignité d'un homme handicapé. Contacté, maître Jérôme Triomphe n'en dira pas davantage. En cette période de deuil, nous ne répondons pas aux interviews, martèle-t-il, un brin provocateur. Et puis, au milieu, une femme, une épouse, désormais veuve, Rachel Lambert, éprouvée par la perte de son mari, accablée par 11 années de procédure, mais surtout triste, assure son avocate, que l'acharnement continue. En tant que tutrice de Vincent Lambert, c'est elle qui va prochainement récupérer le corps de son époux. Reste à savoir comment se dérouleront les obsèques de Vincent Lambert, très certainement dans l'intimité familiale, mais assurément pas dans l'apaisement. Le but de nos combats respectifs n'a jamais été que l'on s'entende tous, nous disait ce matin le neveu François Lambert. L'objectif a été de respecter Vincent.
Merci Hélène Fromanty. Puis j'ajoute que le procureur de Reims a lui non seulement décidé d'une autopsie pour vérifier que l'arrêt des traitements avait bien respecté la loi, mais également ouvert une enquête en recherche des causes de la mort, sans que l'on soupçonne a priori une infraction pénale, a-t-il aussitôt précisé. Après plusieurs mois de débat, le Comité national de l'agriculture biologique a finalement tranché aujourd'hui. Les serres chauffées resteront autorisées en agriculture bio. En revanche, la commercialisation des fruits et légumes bio produits en France sera, elle, interdite entre le 21 décembre et le 30 avril. Et puis à partir de 2025, là, les serres devront être chauffées uniquement avec des énergies renouvelables. Anne-Laure Chouin, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Alors comment faut-il comprendre cette décision ?
D'abord, c'est la première fois qu'une instance interdit la commercialisation avant une date précise de produits bio. Un compromis qui va donc plutôt dans le sens des défenseurs du non-chauffage des serres, puisqu'ils stipulent que oui, les producteurs de tomates, concombres, poivrons et aubergines bio pourront continuer à chauffer leurs serres s'ils le souhaitent, mais que de toute façon, les productions issues de ces serres ne pourront pas être commercialisées avant le début de la saison, fixée donc au 30 avril, soit un mois et demi plus tard de ce que demandaient les défenseurs des serres chauffées. Écoutez Olivier Nalès, président du Comité national de l'agriculture biologique.
Aucun pays au monde en agriculture biologique ne s'est imposé l'interdiction de vendre les légumes désaisonnalisés. Et là, c'est quand même une première mondiale. Est-ce qu'on sera capable de la valoriser, de la porter et de compenser, je dirais, la distorsion de concurrence qu'on en a créée? Parce que ben, c'est vrai que maintenant, on va communiquer auprès des chaînes de distribution en disant « Attendez, nous, on s'est autorégulé, autorégulez-vous aussi. Est-ce que vous trouvez normal de vendre du bio tomate, concombre ou poivron au mois de janvier en bio ?»
Finalement, c'est moins sur le chauffage des serres que s'est prononcé le comité que sur la saisonnalité des légumes bio. Un message envoyé par le ministre de l'Agriculture lui-même, présent ce matin à l'INAO pour annoncer la décision. Au rang des mécontents, les chambres d'agriculture, la FNSEA ou encore les grosses coopératives légumières qui estiment que cette décision va provoquer une hausse des importations de légumes bio. Ce à quoi la Fédération de l'Agriculture Biologique notamment répond que l'Espagne n'a de toute façon pas besoin de chauffer nécessaires pour produire plus tôt dans la saison et qu'elle restera donc toujours plus compétitive.
Merci Anne-Laure Chouin. C'est dans un climat houleux, marqué notamment par la suspension d'un comité central d'entreprise après l'intrusion de salariés en colère, que la direction du groupe d'ameublement Conforama a confirmé aujourd'hui la suppression de 1900 postes et la fermeture de 32 magasins en France. 10 ans après le suicide de plusieurs de ces salariés, c'était aujourd'hui le dernier jour au procès de France Télécom, devenu Orange. La parole était à la défense de l'ancien PDG du groupe, Didier Lombard, lequel, comme tous ses co-prévenus d'ailleurs, nie tout harcèlement moral au sein de l'entreprise du CAC 40, devenu à l'époque le symbole même de la souffrance au travail. Le jugement est attendu le 20 décembre prochain. Quand la France ignore les menaces de représailles du président américain Donald Trump, le Parlement a définitivement adopté ce matin le projet de loi sur la création d'une taxe dite GAFA. Concrètement, le texte prévoit une taxe de 3% sur les revenus des grands acteurs du numérique en France, qui devrait rapporter quelques 500 millions d'euros par an. La veille, le locataire de la Maison-Blanche avait ordonné à son administration d'ouvrir une enquête sur ce projet de taxe française, un processus qui à terme pourrait déboucher sur des mesures de rétorsion commerciale. Déploiement militaire américain, attaque contre pétroliers, drones abattus, le tout dans un contexte d'effondrement de l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà plus de 2 mois maintenant que la région du Golfe a pris des allures de véritable poudrière, et aujourd'hui encore après que Téhéran a nié les accusations de Londres selon lesquelles des navires iraniens auraient tenté hier soir d'empêcher le passage d'un pétrolier britannique dans le stratégique détroit d'Ormuz. Et bien les autorités de la République islamique ont affirmé que l'arraisonnement de leur supertanker la semaine dernière au large de Gibraltar ne reste pas sans réponse, et que les États-Unis et la Grande-Bretagne pourraient bien le regretter amèrement. Quel lien le ministre italien de l'Intérieur et patron de la Ligue d'extrême droite entretient-il avec la Russie, selon des enregistrements audio divulgués par le portail d'information américain BuzzFeed? Un proche collaborateur de Matteo Salvini ainsi que le vice-premier ministre italien, mais aussi un chef de file de la Ligue, se serait rendu à Moscou pour y rencontrer des Russes. Objectif, négocier un accord de financement illégal du parti d'extrême droite. Ce montage financier aurait été destiné à financer la campagne pour les récentes élections européennes. Alors pour l'heure, personne ne sait si cet arrangement a été mené ou non à son terme. En revanche, le montant de la somme négociée est lui a priori connu. Il dépasserait les 60 millions de dollars. Les précisions à Rome de notre correspondante Mathilde Imberti.
L'affaire avait été révélée par l'hebdomadaire italien L'Espresso cet hiver. Elle rebondit avec la retranscription in extenso d'une discussion à Moscou entre des hommes d'affaires russes et l'ancien porte-parole de Matteo Salvini sur le site internet BuzzFeed. Le correspondant en Europe de ce site américain s'est procuré l'enregistrement. Nous sommes en octobre 2018 dans un palace de Moscou. Les échanges portent sur un accord pour la livraison de pétrole russe, accord en marge duquel une caisse noire pouvait être constituée afin de financer la Ligue, une caisse estimée à 58 millions d'euros par le site BuzzFeed. Ces soupçons de financement caché ont conduit le parquet italien à ouvrir une enquête, alors que sur la scène politique, le calendrier s'accélère. Le Parti démocrate, parti d'opposition, réclame l'audition du leader de la Ligue devant le Parlement au plus vite. Matteo Salvini en retour nie tout échange financier avec la Russie. « Je n'ai pas perçu un rouble, un euro, un dollar ou même un litre de vodka en guise de financement », jure-t-il. Voilà une affaire embarrassante pour le parti qui doit déjà rembourser quelque 49 millions d'euros à l'État italien. Une dette créée par Umberto Bossi, l'ancien patron de la Ligue et son trésorier, et issu d'une fraude caractérisée il y a 10 ans.
Et comme chaque soir, à présent, direction le Festival d'Avignon. Avec vous, Arnaud Laporte, ce soir, 2 pièces pour le prix d'une, signée Maurice Maeterlinck.
Maurice Maeterlinck, qui demeure le seul auteur belge prix Nobel de littérature, est un dramaturge qui pose toujours problème aux metteurs en scène. Dans cette édition 2019 du Festival, on verra comment Céline Schaeffer s'est emparée de La République des abeilles, œuvre censément jeune public, mais dont le sujet même, à l'heure où l'on s'inquiète de la disparition de cette espèce, je parle des abeilles, pas du jeune public, résonnera de façon forte. Ce jour, c'est d'une autre pièce célèbre dont je veux vous parler. Célèbre, mais pas en tant que telle, car lorsque l'on parle de Péléas et Mélisande, c'est à l'opéra de Debussy que l'on pense, bien davantage qu'à la pièce de Maeterlinck. Julie Duclos nous ramène donc au texte, texte qui pose, comme je l'ai dit, de sacrés problèmes dont l'auteur ne s'est guère inquiété. Les changements de scène sont nombreux, on ne cesse de passer d'un espace à un autre, du château du roi Arkel à la forêt, d'une grotte à un jardin. Julie Duclos résout simplement cette difficulté en incluant dans son spectacle des séquences filmées, tournées en extérieur, de très belles séquences de cinéma. Sur le plateau, une scénographie mobile permet elle aussi de beaux effets de mise en scène. Mais le très grand plaisir de ce spectacle, c'est bien sûr d'entendre l'écriture de Maeterlinck, un sommet du genre entre symbolisme et romantisme, et l'on voudrait soi-même apprendre par cœur le texte pour se remémorer sans cesse sa très grande beauté. Si l'on l'entend si bien, c'est parce qu'il est porté par des comédiens pleinement engagés. On donnera un coup de chapeau particulier à Philippe Duclos et à Vincent Dicèze, en golo tiraillé par l'amour et la jalousie. Bonne nouvelle, ce Péléas et Mélisande part pour une longue tournée dans toute la France.
On termine avec un mot du temps pour demain. Variable sur la majeure partie de l'Hexagone, davantage ensoleillé sur un tiers sud du pays. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 24 degrés le matin et jusqu'à 36 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Benjamin Ducy. À 22h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.